Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de la revue Conflit. Dans cette émission, nous vous proposons un entretien entre le général Dominique Trinquant et Michael Fleischmann, ambassadeur de la République tchèque en France, à l'occasion de la présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne. L'ambassadeur Fleischmann détaille la politique de la Tchéquie pour l'Union européenne ainsi que la position tchèque dans la guerre en Ukraine, une conférence qui a été prononcée au cercle de l'Union interalliée.
Merci beaucoup de pouvoir être ici. C'est pour moi un grand honneur parce que depuis étudiant en France, en lettres modernes, j'ai toujours entendu parler de cette salle, de cette maison avec énormément d'admiration, et il ne m'est jamais venu à l'esprit que je pourrais un jour prendre la parole ici. Donc c'est quelque chose pour moi très important, plus encore quand je regarde les faits, les gestes de vous tous, je pense que je dois me mettre au plus haut niveau pour pouvoir discuter avec vous d'égal à égal. C'est pas facile. Vous êtes trop fort. La présidence tchèque, on vient passer une année vraiment difficile. Il y a eu la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Ensuite, c'était donc la nôtre. Et étant donné que je ne suis pas de formation diplomate, je me permettrai de temps en temps de sortir de mon rôle de diplomate et de parler peut-être un peu plus ouvertement que ça ne s'y est un vrai diplomate de carrière. Mais c'est une nouvelle tendance qui existe dans la diplomatie de faire entrer des gens de l'extérieur, d'un cercle fermé. Et je pense, personnellement, bien sûr, ça me concerne, donc je pense que c'est bien. Cette présidence tchèque, tout d'abord, elle a eu, entre guillemets, une chance. Et c'est cette guerre en Ukraine. C'est toujours difficile de trouver un vrai sujet pour une présidence et d'instaurer un thème qui sera débattu pendant 6 mois. La présidence tchèque s'est énormément et totalement focalisée sur cette guerre que nous sommes en train de vivre aux frontières de l'Union européenne. Si je saute un peu, le mot comme résumé de notre présidence, et ça me fait plaisir, ça a été plusieurs fois dit, ça a été un succès, et on ajoute que les Tchèques se sont conduits avec humilité et dans l'action. C'est le rôle d'une présidence, c'est d'instaurer des thèmes, de mettre un angle du pays et avec les valeurs du pays, et en même temps ne pas trop pousser les thèmes nationaux. C'est vraiment la présidence du Conseil de l'Union européenne, donc il y a une certaine humilité, une certaine réserve qu'il faut mettre en place, et je crois, à ma grande surprise, je dois dire, ça a été réussi. Je vais essayer d'aller très vite sur cette gestion. de notre présidence, qui était donc, comme je l'ai dit, centrée sur l'Ukraine. Nous avons réussi à avancer au sein du Conseil de l'Union européenne les trois paquets de sanctions contre la Russie. Nous avons réussi à mettre l'Union européenne d'accord sur la suspension des facilitations des visas pour les Russes. Nous avons réussi à se mettre d'accord à ce qu'il y ait en 2022 2 milliards d'euros pour l'Ukraine et pour 2023 18 milliards, 1 milliard pour l'armée ukrainienne. Et ce qui était important pour nous, une répartition équitable des aides européennes aux réfugiés ukrainiens. Il faut imaginer que la République tchèque a accueilli quelque chose comme 370 000 réfugiés en un mois et demi. Il faut se rendre compte que c'est plus de 3,5-4% donc de la population tchèque. Vous imaginez, c'est comme si en France arrivait en l'espace d'un mois et demi quelque chose comme 3 millions d'Ukrainiens. On n'imagine pas. Et quand vous pensez à la Pologne qui a accueilli quelque chose comme 7,5 millions d'Ukrainiens, où il y a des petites villes qui ont augmenté de 30 à 40% de leur population en l'espace de quelques mois, il faut imaginer ce que cela coûte. Et donc cette aide différenciée pour chacun des pays était très important de mettre ça en place. Cette arrivée des réfugiés ne se serait jamais aussi bien passée s'il n'y avait pas une aide incroyable de la part de la population qui a accueilli ces réfugiés chez eux. Et de l'État tchèque, du ministère de l'Éducation nationale, parce que quelques 40 000 enfants ont été tous scolarisés, ce qui est quand même énorme. Donc cette question de réfugiés était l'un des thèmes premiers de notre présidence, et je pense que nous avons manœuvré de manière assez intelligente. La France, elle a accueilli 100 000 réfugiés, aussi dans de très bonnes conditions. J'ai un ami à Nantes qui a accueilli toute une famille. Au bout de 3 mois, il m'a dit « Écoute, Michel, ça suffit. » C'est difficile quand même, hein. C'est pas évident de recevoir toute une famille chez soi, même si on a des moyens. En ce qui concerne la sécurité énergétique, qui est devenue vraiment le thème numéro un de toute la présidence, on n'a jamais vu ça au sein du Conseil de l'Union européenne. 9 réunions extraordinaires qui se sont réalisées en l'espace de quelques mois parce qu'il fallait régler le problème lié à l'invasion russe en Ukraine et cette question des énergies et de l'achat des énergies. La France a été peut-être la moins touchée de toute l'Europe, étant donné qu'elle a ses centrales nucléaires. Mais en Allemagne, ça a posé énormément de problèmes. Et imaginez-vous, dans la petite République tchèque, qui n'a pas de mer, qui a une centrale nucléaire, ce qui la sauve. Mais c'est un vrai problème. D'ailleurs, le prix des énergies en République tchèque a augmenté de manière totalement catastrophique, peut-être le plus en Europe. Donc on a quand même, au sein du Conseil de l'Union européenne, œuvré pour qu'il y ait un vrai mécanisme de réduction de la consommation. Il y a eu un accord global dont vous avez certainement entendu parler, le plafonnement du gaz, et en même temps œuvrer pour le Fit for 55 et le plan Repower Union européenne qui a été négocié avec le Parlement européen. Nous avons énormément œuvré pour qu'il y ait des achats en commun de l'ensemble des pays européens pour ce qui est des énergies. Renforcement des capacités de défense de l'Europe et la sécurité du cyberespace. Je pense que vous connaissez le sujet aussi bien que moi, mais ce renforcement des capacités de défense est un sujet fort qui va nous accompagner maintenant pendant des dizaines d'années, parce que effectivement, nous sommes aperçus tous que l'Europe a sous-estimé les dangers et a sous-investi en ce qui concerne la défense de chacun des pays de l'Union européenne et de l'ensemble de l'Union européenne en tant que telle. Il y a il faut revisiter entièrement le schéma d'approvisionnement des capacités de défense et de mettre en place une autre structure. Le président Macron en a parlé à la Sorbonne. J'étais dimanche à l'anniversaire des 60 ans du traité de l'Élysée entre l'Allemagne et la France. Ça a été de nouveau répété et personne dans aucun journal, je ne l'ai vu mentionné, mais le chancelier Scholz a dit une phrase que personne n'a retenue. Il a remercié Macron du discours de la Sorbonne et a dit qu'il va soutenir il n'a pas dit une armée, il a dit une conception de commune de la défense de l'Union européenne, sous-entendu une armée. Ce qui est une avancée pour les Allemands absolument révolutionnaire, je dirais, depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a quelque chose qui se passe d'important, mais ce qui est très important, c'est ce renforcement de toutes les chaînes de production communes et de mettre en place une défense européenne. La République tchèque est très mal en point. Nous n'atteignons pas les 2% demandés par l'OTAN. Nous en sommes à peu près à 1,2 maximum. Et donc là, le gouvernement tchèque s'est engagé d'ici fin 2023, d'arriver aux 2%, voire au-delà. Parce que c'est une nécessité. Résilience stratégique de l'économie. Nous avons avancé sur la sécurité du numérique et de la protection des consommateurs. Je ne vais pas en parler plus parce que c'est une question qui est mise en place. Mais ça se fait et la présidence tchèque a énormément travaillé sur ce sujet. Cinquième point qui était dans le plan des priorités de la République tchèque, ou de la Tchéquie, on doit dire aujourd'hui. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères, qu'il faut qu'on dise de plus en plus la Tchéquie. J'ai eu énormément de problèmes parce qu'ils ont dit Tchéquia. Alors j'ai dit, mais en France, Tchéquia, c'est inexistant, personne ne comprendra. Donc ils ont ajouté Tchéquia, Tchéquie, ils ont ajouté la Tchéquie, on peut dire la Tchéquie. J'ai du mal, je n'ai pas encore bien appris, déjà sortir de Tchécoslovaquie pour aller vers la République tchèque, ce n'était pas simple. Maintenant d'aller de la République tchèque à la Tchéquie, c'est aussi difficile. Mais donc la Tchéquie, c'est une petite parenthèse. Le cinquième point était, de mon point de vue très important, c'était la résilience des institutions démocratiques. Je ne dirais pas que la Tchéquie soit une jeune démocratie, parce que c'était l'une des premières démocraties en Europe après la Première Guerre mondiale. Mais il y a eu une interruption quand même assez longue, suite à 1948 et la prise du pouvoir par les communistes en Tchécoslovaquie. Donc ce sujet de l'état de droit, de la résilience des institutions démocratiques, faire avancer ces institutions démocratiques, les moderniser, mais garder toujours la structure démocratique est un sujet fort en Tchéquie. Et dans le contexte actuel, vu ce qui se passe en Ukraine et l'invasion russe, vu ce qui se passe dans certains pays européens sur des tendances qu'on appelle populistes ou allant vers de l'extrême droite, je pense que c'est très important à ce que ce sujet soit débattu et à ce qu'il y ait vraiment un accord fort sur la nécessité de maintenir l'état de droit en tant qu'institution première de notre cohabitation au sein de l'Union européenne. Nous avons aussi mis en route, et c'est en discussion, c'est de la mise en place d'un tribunal extraordinaire contre les crimes de guerre que perpétue l'armée russe en Ukraine. Je sais que c'est en discussion. Il y a des pays qui sont un tout petit peu récalcitrants dans le sens qu'ils disent nous avons déjà assez de tribunaux internationaux européens qui existent déjà. Pourquoi encore un autre? Eh bien, parce qu'il faut aller vite. Dernièrement, Madame la ministre des Affaires étrangères française a dit qu'il faudra trouver quelque chose entre ce qui existe déjà au sein de l'Union européenne et les demandes qui sont faites par les Ukrainiens, mais aussi par les Polonais, les Tchèques, en ce qui concerne ce tribunal extraordinaire, qu'il faudra se mettre quelque part à mi-chemin. Je ne sais pas très bien ce que c'est à mi-chemin quand il s'agit du droit, mais disons qu'il faut trouver une vraie structure pour monter ce tribunal, parce que je pense qu'il faudra acter. Au total, donc, 40 réunions du Conseil, des conseils sectoriaux, 94 réunions d'ambassadeurs, 1421 réunions de groupes de travail, 98 trilogues avec le Parlement européen, dont 33 ont été conclus. 315 actions ont eu lieu en République tchèque, en Tchéquie, 14 conseils ministériels. Nous, ici à l'ambassade, rien qu'à l'ambassade ici à Paris, j'ai organisé 54 réunions en 6 mois. Je peux vous dire que j'en sors totalement épuisé, mais passionnant. De l'autre côté, passionnant. Et quand il y a quelque chose qui est intéressant et passionnant, la fatigue passe quelque part ailleurs. Ce que je retiens le plus de cette... de ces 6 mois, quelque chose qui a marqué et qui, je pense, je pense, a des chances de rester dans l'histoire, c'est la réunion de la communauté politique européenne à Prague en octobre. J'en parle pour deux raisons. Une, parce que c'est très important. Deux, parce que c'est personnel, parce que j'ai fait passer un petit papier à mon Premier ministre lorsque mon Premier ministre a rencontré le Président Macron. Et le Président Macron parlait avec énormément d'enthousiasme de cette idée de la communauté politique européenne. Et mon Premier ministre restait un tout petit peu froid, je dirais. Et à un moment donné, je lui passe un papier, j'ai mis « propose à lui Prague ». Et il l'a fait. Donc j'y ai quelque chose, avec ça. Et je trouve que c'était très important que dans une ambiance, entre guillemets, informelle, 44 pays européens, y compris la Grande-Bretagne, y compris les pays... les prix de l'Europe orientales, je dirais presque, se sont réunis à Prague et se sont parlé. Il y a eu même des réunions qui étaient importantes, qui ont fait avancer quelques discussions difficiles et diplomatiques entre pays. Mais asseoir cette idée que l'Europe a une géopolitique qui peut être dessinée de 44 pays, c'était un signal fort qui disait, Monsieur Poutine, l'avenir de l'Europe, c'est ça, et il faut que vous en rendiez compte. Je pense que c'est très, très important. Nous verrons quelle va être la suite. La prochaine réunion doit être en Moldavie, après en Espagne et après en Grande-Bretagne. Personne ne souhaite à ce que ça devienne une administration ou de nouveau une institution lourde et trop structurée et administrative, donc lourde. Tout le monde veut que ça soit un débat un peu plus ouvert, mais surtout un débat de valeurs, sur des valeurs. Donc je pense que c'était très important à ce que quelque chose comme ça existe. La discussion intellectuelle entre pays n'existe pas depuis longtemps. Et c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Nous parlons toujours, nous traitons toujours au niveau ministériel, au niveau des sénateurs et des députés, et on parle toujours des faits. Maintenant, on doit faire ça, on doit régler ce problème-là, etc. Mais une réflexion globale, où est-ce que nous en sommes au XXIe siècle en ce qui concerne les valeurs européennes? Qu'est-ce que c'est que ces valeurs européennes? Ce débat-là n'existe pas. Et quand on regarde, quand on lit au quotidien les journaux, moi je suis toujours en admiration quand je lis les quotidiens ou les hebdomadaires français. C'est quand même assez unique, à part peut-être l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Mais quand je prends que des quotidiens, il y a 15 articles de réflexion tous les jours qui paraissent et qui ont un niveau étonnant. Ça n'existe pas tellement ailleurs. Pour vous en rendre compte, c'est très difficile. C'est très difficile. Il n'y a pas un groupe journaliste, penseur, intellectuel qui s'exprimerait comme ça se faisait entre les deux guerres ou bien après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un manque de cette réflexion, il y a un manque de cette étude, et je trouve que c'est très important d'avancer là-dessus et de trouver. Quand vous parlez aujourd'hui avec des jeunes étudiants qui sortent des écoles journalistes, j'ai travaillé 30 ans dans les médias, vous savez, j'ai formé des centaines de journalistes, de mauvais journalistes. C'est des jeunes qui m'arrivaient à la radio avec la formation de la faculté, rencontraient la radio et l'information radio, et ils sont toujours restés au ras des pâquerettes. Au ras des pâquerettes. On fait une information de 3 minutes 30, point, terminé. Difficile. En France, c'est beaucoup plus avancé que dans les pays de l'Europe centrale. Et je trouve que l'Europe centrale a un grand espace à rattraper ou à moduler. On n'a pas d'intellectuels qui formulent, et c'est un manque. Donc l'importance de cette réunion. En dehors de cela, quand même, et là j'en termine avec cette partie. Je trouve qu'il est très important, non pas que les Tchèques y ont fait quelque chose de plus que les Français, mais que l'ONU a voté la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme est un acte d'une importance énorme, on n'en parle pas assez, et que 143 pays de l'ONU ont condamné la Russie concernant les annexions que la Russie a faites. Je trouve que c'est très important. Donc je trouve que la présidence tchèque a travaillé sur les sujets du moment d'importance, c'est-à-dire les énergies, la situation économique, les réfugiés. C'était tout ça très, très important. Mais surtout et avant tout, malgré une certaine usure due à la... au temps que ça prend cette guerre, nous avons quand même réussi à garder et à soutenir l'unité européenne, qui est quand même, je dirais pas surprenante, mais personne ne s'y attendait à ce que l'unité européenne soit aussi forte face à cette agression russe en Ukraine, et que ça a réveillé énormément de thèmes qui sont à discuter et à traiter, et qui ont été un tout petit peu laissés de côté. Voilà.
Monsieur l'ambassadeur, si vous le permettez, merci beaucoup pour ce bilan européen de la présidence, de la Tchéquie, c'est ça ? Ce que je vous propose, parce que je sais que la deuxième partie, vous voulez plus parler un petit peu du contexte actuel, je vous propose de l'inclure dans les questions qui vont être posées, en fait, hein, parce que je pense que tout autour de la table, il y aura beaucoup de questions sur ce sujet-là. Moi, avant de passer la parole aux différents intervenants autour de la table, deux remarques. La première, votre conclusion. C'est vrai que tout le monde a été surpris de l'unité que l'Europe arrivait à maintenir. 27 pays, 27 histoires, 27, c'est compliqué. Et ils ont maintenu l'unité. Vous parliez des valeurs. Alors, je voyais quelques sourcils qui se levaient sur les valeurs. Mon sentiment est qu'on n'établit jamais un niveau de valeur qu'en opposition à autre chose. Et qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de découvrir quelles sont nos valeurs. On se pose toujours les valeurs, qu'est-ce que c'est les valeurs, etc. Mais justement, avec ce qu'on est en train de vivre, on s'aperçoit par contraste, hein, par opposition plus exactement, on s'aperçoit de ce que c'est. Et puis le troisième point, très intéressant, la réunion de Prague, dont peu de gens parlent en fait. Peu de gens réalisent l'intérêt qui a à avoir un environnement géopolitique autour de ce groupe de 27, et donc une vision élargie, à la fois géographique, mais aussi sur un certain nombre d'éléments. Et je crois que c'est intéressant, il n'y a eu qu'une seule réunion, donc évidemment, à parler plus ou moins à ce moment-là, mais si le mouvement est vraiment lancé, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, comme vous le soulignez, sur ce sujet. Donc si vous le permettez, on va passer aux questions, et puis dans les questions, à ce moment-là, on pourra aborder la situation actuelle en particulier.
Le pilotage de la France et de l'Allemagne, il existe toujours. Nous savons tous, et nous le lisons dans les journaux, et vous êtes dans les milieux, qu'il y a des dissensions. Néanmoins, ces dissensions ne mettent pas en cause la puissance de ce tandem. Nous le savons en Europe centrale. Néanmoins, c'est vrai que à l'orée de cette guerre et de cette présence de cette guerre aux frontières est de l'Union européenne, cela nous donne quand même une possibilité d'exprimer nos inquiétudes qui n'étaient pas toujours partagées par le couple franco-allemand. Maintenant, c'est partagé. Aussi bien l'Allemagne que la France ont fait, en un an, ils ont fait un progrès de ce point de vue-là étonnant et admirable. Je ne dirais pas se rapprochant de notre lecture de la situation, mais néanmoins, ils sont beaucoup plus à l'écoute qu'ils ne l'étaient. C'est vrai qu'on en parle aujourd'hui même que la tendance allemande, c'est de discuter plus avec les Polonais qu'avec les Français. Je mettrais ça un tout petit peu entre guillemets. C'est souhaitable, n'empêche que nous considérons que le couple franco-allemand est toujours le couple qui mène et qui aide à l'existence de cette Union européenne et de l'Europe en tant que telle. Il ne faut pas oublier une chose qui est très importante quand même. Nous savons parfaitement que les États-Unis aident le plus les Ukrainiens. On essaie de nous persuader aussi bien en France qu'en Allemagne, que quand on réunit toutes les aides qui ont été faites de tous les pays européens, nous sommes à égalité avec les États-Unis. chacun, nous avons chacun nos chiffres, et c'est difficile de comparer. C'est difficile de comparer. N'empêche, nous sommes en Europe et c'est important. L'Angleterre aide énormément. C'est vrai que quand on rapporte à la population les aides que l'on fait, au pourcentage, la République tchèque est par exemple à la 4e place et la France à la 7e. Maintenant, il faut savoir la qualité de ce qu'on donne, et, comme armes par exemple, etc. Donc c'est très difficile à comparer et je suis tout à fait d'accord, et nous sommes tout à fait d'accord avec cette attitude française de ne pas trop dévoiler ce que l'on donne, quelles sont les aides, parce que ce n'est pas là où les choses se passent, c'est en se comparant d'un pays à l'autre. À la limite, ça n'a pas d'importance. Mais ce que je veux dire, il y aura un jour des discussions sur la solution de cette attaque terrible de la Russie contre l'Ukraine. Qui sera, peut-être pas à la table, mais derrière la table? Ce ne seront pas les Tchèques, ce ne seront pas les Polonais, ce ne seront pas les Suisses. Ce seront des pays nucléaires qui ont la bombe atomique. Ce sera la France et les États-Unis et l'Angleterre. Il faut ça en compte, il faut avoir ça à l'esprit. Et l'Allemagne est là à ce moment-là, comme un pays d'une importance absolument énorme, vu sa puissance économique, etc., etc. Mais je doute fort qu'il sera à table. Ça sera la France. Dans l'Union européenne, c'est le seul pays qui a l'arme atomique. Donc, et Poutine ne discutera pas avec des pays qui n'ont pas la bombe atomique. Que ce soit Poutine ou quelqu'un d'autre. C'est quand même le sujet principal. Est-ce que la Russie partage des valeurs européennes ou pas? Nous pensons que non. La France, gaullienne, pense toujours que oui. Il y a là, effectivement, une discussion à avoir entre ce qu'on appelle l'Europe centrale, qu'on appelait à l'époque l'Europe de l'Est, maintenant plus centrale que jamais, puisque nous avons maintenant l'Ukraine, donc on n'est plus tellement à l'Est, on est vraiment au centre. Cette attitude française de l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural, nous on sait parfaitement d'expérience et de connaissance que ce n'est pas possible. Ça a des conséquences, ça a eu des conséquences énormes, j'en ai parlé un tout petit peu pendant notre présidence, c'est sur cette facilitation des visas. Nous, les Polonais, les Tchèques, les Slovaques et d'autres, et les pays baltes, bien sûr, nous sommes pour, non pas une facilitation, mais une interdiction. On est très radicaux là-dessus, parce qu'on n'y croit pas à cette attitude allemande, française et d'autres, qu'en laissant sortir des touristes russes dans les pays de ce qu'on appelle l'Europe occidentale ou l'Union européenne, qu'ils vont voir comment c'est formidable ici et comment on vit bien à l'Ouest, et après, quand ils vont rentrer en Russie, ils vont raconter ça aux autres et les autres vont être sous influence et vont s'opposer au régime de Poutine.
Échapper à la conscription.
Bien sûr. On n'y croit pas. Ceux qui sortent sur des visas touristiques, ils vont aller se dorer la pilule sur la Côte d'Azur. Ils en ont les moyens. Pourquoi est-ce que, puisqu'ils ont les moyens, s'opposeraient-ils à Poutine, puisque c'est lui qui leur a donné la possibilité d'être riche? La dissidence. Les dissidents russes, plus de trois quarts sont déjà en Europe occidentale. Ceux qui sont restés, et qui souffrent vraiment, et qui sont en danger en Russie. Il faut énormément les aider là-bas, là-bas et non pas en leur donnant la possibilité pour qu'ils sortent, parce qu'ils ne rentreront plus. Ils ne rentreront plus. Parce que s'ils rentrent, ils vont en prison. Donc la dissidence, et j'ai rencontré des dissidents qui sont rencontrés, on s'est parlé au téléphone, des dissidents qui sont en Russie, qui m'ont engueulé, pardon du mot, à cause de cette attitude tchèque sur la volonté d'interdire, de donner les visas touristiques aux Russes. Parce qu'ils disaient, voyez, Poutine va en profiter et va dire à la population russe, regardez comment l'Occident nous déteste et ne nous donne même pas des visas. Ça va se retourner contre nous. Oui, il a raison, ils ont raison, et en même temps, nous avons raison aussi. Et moi, je réponds, c'est de votre responsabilité de se poser aux Russes. Ce n'est pas en donnant des visas qu'on va créer une nouvelle situation qui va changer quelque chose. Troisième chose, c'est la population russe qui souffre énormément des sanctions. Et on aura d'autres, il y a déjà 9 paquets, on aura le 10e, 11e, 12e. Elle en souffre. Et on pense, maintenant je sors peut-être un tout petit peu du sujet, mais de la question, mais excusez-moi. Ils en souffrent, mais les Russes sont habitués à souffrir. On ne connaît pas plus ça en France depuis des siècles. Mais ils savent souffrir, ils savent être pauvres, et ça n'a jamais mis en cause le Batyushka, le père du pays, que ce soit un tsar, que ce soit le chef du Parti communiste et président, et que ce soit Poutine. Pour eux, c'est des icônes, c'est des idoles. Ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Ce qui change en Russie, ce qui peut changer en Russie, c'est pas les dissidents aujourd'hui. Les dissidents donnent la base, une structure de réflexion qui peut être menée et apportée avec le temps, une certaine démocratisation, entre guillemets, de la Russie, si le mot démocratie peut être utilisé pour la Russie, quel que soit le régime. Compliqué. C'est pas aussi simple. La démocratie, c'est une notion inconnue. Faut s'en rendre compte. Nous, on est là dans une démocratie, on connaît que ça, on a ça dans le sang, etc. Là-bas, ça n'existe pas. C'est une conception qui ne fait pas partie du langage. Donc, les dissidents, ils peuvent apporter un soutien, mais ce n'est pas les dissidents qui font la révolution. L'émigration. Moi, j'étais en émigration toute la plus grande partie de ma vie. Mon père est resté après 68, il est resté ici en France. Et donc, j'ai fait toutes mes études en France. J'ai la nationalité française, j'ai la double nationalité, etc., etc. L'émigration n'est qu'un outil. L'émigration ne fait pas une révolution. Ça n'existe pas. Nous, on a écrit des articles, on a réuni de l'argent, on a envoyé de l'argent, on se battait pour Havel qui était en prison, on essayait de le faire sortir, on a tout fait pour que ça se sache qu'il est en prison, ça lui a sauvé peut-être la vie. On ne sait rien, mais peut-être. Mais ce n'est pas nous qui avons fait la révolution. Donc le changement du régime en Russie ne se fera pas par une nouvelle connaissance de l'Occident parce qu'il est mieux que ce que vivent les Russes. Non, je ne crois pas. Les dissidents ne font pas en Russie une révolution parce que, un, ils sont faibles et le système russe est bien structuré, policier. Trois, ce n'est pas l'immigration qui va changer quoi que ce soit. Qui est-ce qui va faire alors la révolution? Qui est-ce qui va la faire en Russie? C'est la grande question. Ce n'est pas non plus les gens autour de Poutine. On n'est plus du temps du Parti communiste où le comité central du Parti communiste se réunissait et décidait que Khrouchtchev, ça va, s'en va. Ça n'existe plus. Il y a un Poutine et il est seul, tout seul. Et il a autour de lui ces gens autour de lui qui ne dépendent que de lui, de la vie et de la mort. Et ils sont autour de lui et ils n'ont aucune volonté de changer quoi que ce soit. Il est tout seul. Il n'y a personne pour le dans nos structures que nous connaissons pour le faire descendre. Entre guillemets. Donc, qui peut se révolter? La guerre en Ukraine montre quand même une chose importante. C'est que l'armée russe n'est pas du tout dans l'état dans lequel on la croyait. Pas du tout. Qu'ils ont des armes formidables, fantastiques, modernes, etc. Mais en général, ce qu'on a appris depuis pas mal maintenant quelques mois, on le sait, ce sont des projets d'armes, c'est des constructions, ce sont des quelques armes qu'ils ont, mais ils n'ont pas une capacité de production d'armes assez suffisantes et assez rapides pour pouvoir compenser ce manque qu'ils croyaient ne pas avoir, mais ils l'ont. Donc il y a des soldats. Il y a des soldats qui sont qui constituent l'armée russe, plus ceux qui sont appelés presque de force et amenés sur le front, et qui meurent. Et ils sont dirigés par des vieux généraux russes qui ont complètement raté tout ce qu'ils pouvaient. En plus, ils ont menti à Poutine sur la situation. Et donc la révolte que nous, on pense qui va avoir lieu en Russie, ça va être les jeunes officiers de l'armée russe. C'est eux qui ont en main le destin de la Russie aujourd'hui. Parce qu'il n'y a personne d'autre. Il y avait une fenêtre de tir dans les années 90. Sauf que la nouvelle Europe qui se constituait suite justement à la sortie de l'emprise des pays de l'Europe centrale de la Russie, de l'Union soviétique, c'était pour nous inimaginable d'essayer de voir une nouvelle Europe, alors que nous battions pour entrer dans cette Europe qui était celle du moment. Le président Havel, quand il est allé parler au Congrès aux États-Unis, à Washington, sa phrase célèbre était « Vous voulez, vous, les États-Unis, vous voulez nous aider ?» Eh bien, aider la Russie. Cette Russie qui ne sait pas où elle commence, où elle finit. C'était ses phrases, c'est là, je cite. Et c'est vrai, bon, lui aussi, il pensait que si on aide économiquement et fortement la Russie, ça va changer la donne. Que la Russie va se rapprocher des valeurs, et maintenant valeurs pécuniaires, comme valeurs humaniste, va se rapprocher. Et ça a été fait. Le monde entier a investi à mort en Russie. Ça a augmenté le niveau de vie des Russes d'une manière inimaginable. Quand vous rencontrez aujourd'hui un jeune ou une jeune russe de 30, 35 ans, elle vous dit, mais pourquoi tu attaques ce Poutine? Moi, ma mère... Ma grand-mère, elle vivait à 4 familles dans un même appartement. Maintenant, moi, j'ai mon appartement, ma mère a son appartement, et ma grand-mère est dans une maison de retraite. Pourquoi tu attaques Poutine? Il y a une évolution naturelle de la richesse, qu'on soit un pays pauvre ou pas, mais il y a quand même une progression, peut-être lente. Et puis, il y a eu ces investissements que l'Occident a fait en Russie, qui a fait augmenter le niveau de vie des Russes. Sauf qu'ils n'ont pas réussi à vendre ça aux Russes comme un investissement de nos pays, de l'Union européenne, des États-Unis et d'autres. C'est Poutine qui a apporté ça aux Russes. Il faut comprendre, aussi ce problème-là. Donc maintenant, expliquez à la jeune population russe, vous allez vivre mieux en Russie si vous faites la révolution démocratique. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est très compliqué, c'est très difficile. Et donc, bon, j'ai essayé. J'ai rencontré l'autre jour Luc Ferry. Vous le connaissez tous, bien sûr, etc. Lui, il dit l'Europe, c'est fini. C'est mort. L'Europe, c'est mort. Il y aura un monde, disons, bipolaire, voire tripolaire, mais il n'y croit même pas. La Chine, la Russie, l'Inde, et les États-Unis et le reste. L'Europe, c'est terminé. Donc, pas très optimiste. Moi, je n'y crois pas. Je pense que l'Europe a son rôle à jouer. Je pense que les États-Unis sont tout contents de ne pas être en première ligne sur la ligne de front avec la Russie. Ils sont tout à fait contents de cela. Qu'ils investissent et qu'ils aident l'Ukraine, bien sûr pour des questions de géopolitique, etc., mais aussi pour les valeurs, et là vraiment des valeurs pécuniaires, parce que là, n'oubliez pas que l'Ukraine est l'un des pays les plus riches de l'Europe, quand même. Et la répartition de l'après-guerre va être un massacre. La guerre de la Russie en Ukraine n'est pas une guerre. C'est une guerre que la Russie mène contre le monde occidental. Non pas contre l'Ukraine, mais contre le monde occidental. Parce que, justement, le discours occidental, ne passe plus. Il faut vraiment que l'Europe et le monde occidental se revitalisent pour que son discours soit clair, beaucoup plus clair. Cela dit, la Russie, quand elle attaque l'Occident, elle s'attaque aussi à l'Afrique. Je pense que le côté de l'incompréhension de la part de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Sud, du Moyen-Orient, de l'Inde, par rapport à ce conflit, est très grave. Et c'est là où il faut vraiment faire une avancée très très importante, parce que la Russie, elle veut dominer. Elle veut dominer. C'est un pays impérialiste. Ça a toujours été historiquement un pays impérialiste. Et elle veut instaurer ses règles. Ces règles qui, quand on y réfléchit et quand on lit les textes sur la Russie et des Russes, etc., etc., ils sont totalement imprévisibles. On ne sait pas. Qu'est-ce que pensent les Russes? Qu'est-ce que pense la classe politique russe? Vous le savez? C'est impossible à savoir.
Avec la censure qu'il y a en France, c'est effectivement impossible de le savoir.
Avec la censure. Intéressant. D'accord.
On les écoute tous les jours, hein, au passage. Hein. On les écoute tous les jours. Qu'on ne partage pas les points de vue, c'est une chose, mais on les écoute tous les jours.
On ne peut pas isoler la Russie in aeternam. C'est pas possible. Mais là, on est en guerre. On est en guerre. Donc c'est une situation vraiment particulière. Et nous sommes en guerre, donc il y a une situation. Ça ne peut pas se passer in aeternam.
Vous êtes en guerre contre qui? La Tchécoslovaquie est en guerre contre la Russie aujourd'hui?
C'est la Russie qui mène la guerre contre...
La Tchécoslovaquie? Contre l'Europe?
Contre l'Europe, contre l'Europe, contre l'Occident. Attendez. Poutine se considère et est persuadé qu'il porte des valeurs morales. Nous, on pense aussi. Maintenant, c'est quoi ces valeurs morales? C'est d'envoyer des armées dans un pays comme l'Ukraine et d'appeler ça opération spéciale et ne pas appeler ça la guerre? C'est nous qui appelons ça, nous, en Occident, on appelle ça la guerre. Parce que c'est la guerre. Parce que ça a tous les attributs de la guerre. Et lui, il appelle ça opération spéciale. Donc, c'est lui qui mène une guerre, et nous, il appelle ça opération spéciale, et nous, on dit qu'il mène une guerre. Nous, on mène une guerre, nous, effectivement, on mène une guerre. On aide l'Ukraine à défendre son territoire.
Vous êtes un co-belligérant ?
Ça n'existe pas, en fait, la co-belligérance. Pardon, on va terminer, parce que sinon, on peut faire un débat après. Mais je voudrais que tout le monde puisse s'exprimer, là.
Oui. Je voudrais un tout petit peu ajouter encore quelque chose. Moi, je comprends parfaitement vos remarques. C'est très juste. Et il est important à ce que l'Europe sache expliquer et faire concordance entre la réalité et les paroles. Ça, je suis absolument d'accord. Et bien sûr, ça va mettre du temps, c'est compliqué. Et il y a une chose quand même importante. C'est que ce qu'on appelle les valeurs, et on y revient, les valeurs occidentales, l'Afrique, l'Inde, etc., ils ne les comprennent plus. Donc il faut retrouver le langage, il faut retrouver les définitions. Moi, je suis en train de lire du Montesquieu, de tout ça. J'essaie vraiment de m'y retrouver moi aussi. Hein. Ce n'est pas une question de politicien du moment, etc. C'est une réflexion intellectuelle intense qu'il faut avoir. Et c'est ça que, depuis le début, je dis qu'il faut, j'appelle à cela. Bon, la question de Taïwan, c'est passionnant. En République tchèque, c'est une question qui est énormément discutée, grâce d'ailleurs à cette dispute entre le président Zeman et le président du Sénat, M. Vystačil, qui a mené cette délégation de sénateurs à Taïwan, et ça a fait énormément de bruit. Depuis, il y a eu d'autres délégations qui sont passées au Taïwan, et ça a toujours mis en colère le pouvoir chinois, et d'une manière très, 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 très forte. La population, alors, parce que c'est devenu un débat très conflictuel entre le président de la République et le président du Sénat, c'est allé tellement loin que le président Zeman refuse d'accueillir au château de Prague le président du Sénat. Incroyable. Ça a pénétré la population, ce qui est passionnant. C'est rare quand même qu'une dispute de haut dignitaire de l'État devienne un fait divers, je dirais. Pourquoi les Tchèques s'y sont intéressés en tant que tels? Parce que tout simplement, on a annoncé que la Chine va faire de la République tchèque la plaque tournante de ses investissements vers l'Europe occidentale. Des milliards de yens. De milliards de dollars, peu importe. Ont été promis. Rien n'est arrivé. C'était une illusion. Tout ça, c'était porté par ce monsieur dont vous avez parlé et qui a disparu. Et donc, aujourd'hui, les biens chinois, à part quelques investissements petits, il n'y a eu qu'un gros investissement, c'était d'acheter une équipe de football. D'ailleurs, c'est mon équipe de football. Hein. J'ai même joué en tant que jeune, j'ai joué pour cette équipe. Et c'est vrai que cette équipe fonctionne parce qu'elle a des moyens, parce que là, l'argent est arrivé. Donc, à côté de ces milliards et des milliards promis dans l'industrie, dans la construction des usines, etc., ça s'est réduit à une équipe de football. Nous sommes un pays de moyenne importance dans l'Union européenne, 10 millions d'habitants, 10 millions et demi d'habitants, et on sait parfaitement, et les Tchèques ressentent parfaitement le danger que vit le Taïwan face à la Chine, comme nous avons vécu durant toute ma vie le danger de la Russie ou de l'Union soviétique par rapport à la Tchécoslovaquie ou à la République tchèque, maintenant. Donc, il y a quelque chose de commun que nous savons, même si on ne sait pas comment vivent les Taïwanais, même si on ne sait pas très bien. Mais la population en tant que telle a un ressenti qui est là. prenons l'Alsace et la Lorraine, imaginez-vous. Imaginez-vous ce qui s'est passé en Alsace et la Lorraine. À une autre époque, faut pas faire des analogies trop importantes, mais néanmoins, il faut avoir ça à l'esprit. Imaginez-vous donner Donetsk et Luhansk à la Russie, c'est comme si on faisait quelque chose de très bizarre avec l'Alsace et la Lorraine. La Chine, on en a parlé là tout à l'heure. Je vais vous dire une chose importante quand même, que je considère qui est importante. On se pose la question toujours de l'après-guerre russo-ukrainienne, de la guerre que mènent les Russes en Ukraine. Et on nous dit souvent, on ne gagne pas une guerre aujourd'hui. Et il faut tout faire pour que la Russie ne perde pas la guerre. Il faut que l'Ukraine gagne, mais il ne faut pas que la Russie perde. Qu'est-ce que ça veut dire que la Russie ne perde? Pourquoi? On pense tout simplement, pourquoi elle ne devrait pas perdre? Ils ont déjà perdu une guerre, plusieurs guerres, pas mal de guerres, contre les Japonais, etc. etc. Et on me répond, parce que la Chine va manger la Russie. Et vous savez ce qu'on répond? Et alors? Et alors? Est-ce que c'est vraiment le problème essentiel aujourd'hui du monde que la Russie fasse son impérialisme en Russie? S'il y a deux populations qui se détestent, c'est les Russes et les Chinois. Donc, en 10 ans de cet impérialisme chinois en Russie, il y aurait une guerre entre Chinois et Russes. Donc, aujourd'hui, pour essayer de voir les choses et traiter des choses d'aujourd'hui, nous, on répond que les Chinois veulent manger la Russie. Et alors c'est, faut y réfléchir et personne n'en parle. On ne peut pas gagner la guerre, la Russie ne peut pas perdre la guerre, parce que sinon c'est la Chine qui va manger la Russie. Et alors l'OTAN. Il y a une chose quand même que l'on suit au niveau maintenant des chiffres, de statistiques. La guerre en Ukraine a fait augmenter la confiance dans l'Union européenne et dans l'OTAN, dans la population tchèque. On se rend parfaitement compte, et là, je suis désolé, mais regardez quand même l'avancée du président Macron en ce qui concerne l'OTAN il y a 2 ans et aujourd'hui. Il y a eu une avancée de réflexion de la part du président Macron depuis la fameuse déclaration sur l'OTAN à aujourd'hui. On a quand même fait un pas énorme, énorme, énorme. Donc, nous, on dit qu'on ne peut pas se passer du parapluie de l'OTAN. On ne peut pas se passer de la parapluie de l'OTAN. Cela dit, on soutient parfaitement l'initiative européenne de mettre en place une défense européenne. Maintenant, si c'est à la manière macronienne pour qu'on puisse se regarder les yeux dans les yeux, ou bien c'est différemment, etc., on ne sait pas, on n'en est pas là. Mais n'empêche que, effectivement, on est et on soutiendra des initiatives pour qu'il y ait une vie commune des armées de l'Union européenne. Je ne dis pas de créer une armée, je ne dis pas etc., etc., mais on s'aperçoit qu'on doit faire des achats communs. On est parfaitement conscient qu'il faut vraiment créer une vie beaucoup plus intense entre les armées françaises, allemandes, polonaises, tchèques, etc., etc. Par rapport à la France, la population tchèque a plus peur qu'ici. Bien sûr, les Tchèques sont très inquiets. Ils ont quand même vécu pendant longtemps sous la dominance russe, soviétique. L'idée de Poutine, c'est de recréer l'Union soviétique, c'est de faire une bipolarisation de l'Europe qui est donc avant 1999, ça veut dire l'entrée des pays de l'Europe centrale dans l'OTAN. Il veut aller avant l'entrée des pays dans la communauté européenne, dans l'Union européenne. Donc ce sont des thèmes que les Tchèques savent et connaissent, et ça les inquiète. Ça les inquiète. Ils sont, et c'est pour ça qu'il y a une augmentation de la confiance dans l'Union européenne, parce que cette unité européenne qui est arrivée donc, depuis le 24 février de l'année dernière, en 1968, ça ne s'est pas passé. Moi, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans et j'étais devant les chars. J'étudiais en France. J'avais ce privilège d'un membre, mon père était membre du Parti communiste. Et je pouvais étudier en France, qui était vraiment... J'étais donc un enfant très privilégié. Et Général de Gaulle a accueilli... Je vais vous raconter ça et on finit là-dessus. Général de Gaulle fait un pas diplomatique fort, c'est que le 22 août 1968, il accueille en premier l'ambassadeur de la Tchécoslovaquie de l'époque, M. Pidart, il l'accueille et fait attendre M. l'ambassadeur de l'Union soviétique, Zorin, l'a fait attendre. Alors que Zorin était déjà là, M. Pidart arrivait en vitesse à Paris depuis ses vacances en Tchécoslovaquie, et De Gaulle l'accueille. M. Pidart, bon, De Gaulle lui dit, nous vous soutenons, nous sommes entièrement derrière vous, c'est inacceptable, atati patati, etc. Grand discours, etc. Puis il prend M. Pidart et l'amène dans le bureau de Gaulle, une grande carte du monde entier, et il dit, vous savez, monsieur l'ambassadeur, ici c'est Londres, ici c'est Paris, ici c'est Prague, et ici c'est Moscou. Monsieur Benesch, en 1945, a pris ça, ses responsabilités, et au lieu de venir me voir à Paris, il est allé à Moscou. Pidart revient, mon père était conseiller culturel à l'ambassade, cherchant à réunir tous les soutiens possibles et inimaginables, persuadant Marché. Non, c'était pas Marché, c'était Duclos. Exact, merci. Persuadant Duclos à ce qu'il fasse une déclaration, etc. Appelons Aragon. Aragon a dit si le Parti communiste ne dénonce pas l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie, je me suicide. Mon père, j'étais là et je l'écoutais. Mon père qui dit, mais écoute, tu m'as déjà dit ça deux fois. Là. Ça va. Bon. Pidart arrive à l'ambassade et raconte ça à mon père. Et mon père lui dit, c'est foutu. C'est foutu. Mais comment c'est foutu? Il va nous soutenir, etc. Il dit, ben oui, mais ça sera tout. Ça sera du déclaratif. Et c'est resté du déclaratif. Donc maintenant, ce qui se passe en Ukraine, cette aide européenne, américaine, britannique, c'est du jamais vu. C'était une surprise pour la population tchèque. Et une bonne surprise. Donc, c'est tout simplement pour essayer de répondre à ça.
Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Et très intéressant de terminer par cette anecdote vécue de l'intérieur d'une période qui a été très forte. Je rappelle que quand je disais à des Russes habitant depuis 15 ans en France, mais quand même, vous avez occupé l'Europe de l'Est, ils me répondent non, non, on l'a libérée. Et quand je leur dis, mais Budapest 56, Prague 68, ça vous dit quelque chose? Ils me disent, de quoi parlez-vous? Donc voilà, il y a deux mondes qui sont un petit peu différents. Merci beaucoup parce que je pense vraiment ces petits déjeuners, l'idée c'est de faire de la géopolitique vue par des points de vue différents. C'est très intéressant de voir un pays de l'Union européenne qui a son histoire, sa façon de voir les choses. Et ce qui m'intéresse...
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
M'intéresse beaucoup, c'est de voir que cette Union européenne avec 27 histoires, 27 façons de voir différentes, arrive à progresser ensemble. Ça, je crois que c'est quand même, on peut le dire, une super réussite. Donc, merci à tous pour votre participation, pour vos questions, et puis. Après ce petit déjeuner, bien sûr, le débat est ouvert si vous avez des points de vue contradictoires pour échanger sur ce point de vue. Voilà, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur.